Ok. À
Merci.
toi,
Bonjour
ouais.
à tous, je m'appelle Hugo Adjure et je suis doctorant en troisième année de thèse dans l'équipe Avalon du laboratoire LIP à l'ENS de Lyon et aussi avec Iron City, qui est une école dans l'intelligence artificielle à Paris. Aujourd'hui, je vais vous parler de un chapitre, disons, de ma recherche dans ma thèse. Qui s'intitule donc Optimiser la sélection de tâches sous contrainte énergétique dans les systèmes IoT grâce à de l'apprentissage par renforcement. Je vais d'abord vous introduire un petit peu le contexte, ensuite une brève présentation de l'apprentissage par renforcement pour ensuite aller un peu plus dans le gros du travail, le point 3 et 4, modélisation et résultats, et ensuite ouvrir un petit peu. Alors voilà, pour recentrer un petit peu. Sur ma recherche. Ma thèse se centre autour de l'apiculture de précision, donc les ruches d'abeilles connectées. Bien que j'essaye aussi de généraliser à tout ce qui est similaire au système connecté qui sont intégrés aux ruches d'abeilles. Notre système, du coup, ils doivent être durables, autonomes, intelligents pour produire du service et à basse consommation énergétique. J'ai d'abord établi une revue de bibliographie. Vous avez la référence de la publication sur le point numéro 1. On a établi un design d'une ruche, notre ruche connectée, pour ensuite déployer et dans le même temps faire des analyses énergétiques. Vous avez deux autres publications qui sont référencées ici. Puis ensuite, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est en cours d'élaboration, je préfère annoncer, les résultats ne sont pas finalisés. Donc peut-être qu'il va y avoir un petit peu de frustration à la fin, mais c'est en cours de réalisation. Un rapide graphique sur ce domaine un petit peu niche du precision beekeeping en anglais, qui a quand même fortement augmenté depuis le milieu des années 2010 jusqu'en 2021. Bon, comme l'année 2022 est terminée, on voit qu'il y a quand même une petite baisse pour 2022. Ça, je ne saurais pas expliquer. J'ai été surpris de voir qu'en 2022, on a moins de papiers. C'est le nombre de papiers publiés sur Google Scholar ici, avec le terme Precision Beekeeping. On a une petite baisse en 2022. Si vous avez une idée, une interprétation, je suis preneur. Mais globalement, je pense qu'on est en train d'atteindre un plateau à la fin du boom Precision Beekeeping. Donc la motivation générale, c'est de préserver les abeilles et épauler les apiculteurs, créer du service grâce à des données récoltées dans des ruches. Nous, on a mis en place une ruche connectée qu'on peut voir sur le côté ici, avec du coup des capteurs, les fils noirs ici, qui passent à l'intérieur en fait du corps de la ruche et qui viennent se positionner entre deux compartiments au milieu de la vie des abeilles, donc en interne. On a aussi des capteurs à l'extérieur, comme par exemple, alors il y a un tout petit pixel blanc ici, c'est une caméra qui prend des photos de l'entrée de la ruche pour pouvoir montrer un petit peu, enfin, juste prendre des photos de l'entrée de la ruche et puis ensuite faire des analyses sur ces images si besoin. On voit aussi qu'il y a un aspect important, c'est que les ruches, elles sont en général dans la nature. Nous, on a déployé dans des espaces urbains. En général, c'est des ruches dans la nature, donc isolées. Donc, on doit avoir une source d'énergie autonome et donc on fait appel à des panneaux solaires pour notre énergie. Donc, des panneaux solaires qui vont charger des batteries, qui vont être la source d'énergie de nos systèmes connectés. Alors sur quoi est basé notre système déployé? Là on voit en fait les données qui ont été récupérées, le produit fini un petit peu. On a des données plutôt numériques sur le côté avec des températures, de l'humidité. On a les photos en bas à droite et du son en bas. Donc on a ça, ce sont les données apicoles. Et on a aussi notre rapport par rapport aux autres systèmes d'apiculture connectés, c'est que on collecte aussi la consommation énergétique du système qui collecte les données apicoles. C'est ce qu'on veut optimiser, c'est le pourquoi du comment de ma présentation aujourd'hui. Le tout est basé sur un Raspberry Pi. C'est lui qui s'allume périodiquement, en fait, à une période variable, qui peut être variable, ou enfin, on la fixe, mais on peut la changer au fur et à mesure. donc le Raspberry Pi s'allume, collecte les données, les traite et ensuite transfère des résultats ou les données. Alors, s'allumer, collecter les données, c'est facile à visualiser. Traiter les données, c'est dans ce domaine ici, c'est un petit peu, c'est quelque chose qu'il faut expliquer. Et dans la revue littérature, j'ai recensé au moins 8 grandes catégories de diagnostics. Alors, il y a l'estimation de la population de la ruche, la prédiction de l'SMH, qui est une phase clé de la vie d'une colonie d'abeilles, la détection de parasites, la mesure de la production de miel. Et il y en a d'autres, mais je m'arrête ici parce que j'ai un temps limité. Et donc, tous ces diagnostics-là, on aimerait les faire le plus souvent possible. Alors, si on les fait constamment, on va commencer à perdre de la valeur par tâche, mais on aimerait les faire assez régulièrement et tourner assez régulièrement. Et donc, c'est pour ça qu'on a la problématique suivante. On veut optimiser cette sélection de tâches, en fait, de grandes catégories de diagnostics, et les faire tous assez. Sans avoir de problème d'énergie, tout en étant autonome en énergie, durable, mais tout en restant frugal. Voilà, ici je reformule la problématique. Optimiser en fait du coup la valeur produite par ces tâches dans ces systèmes qui sont autonomes, qui sont stationnaires et qui produisent leur propre énergie. Alors j'ai introduit tout mon domaine d'apiculture connectée. J'essaye aussi de généraliser un petit peu et de montrer qu'on peut appliquer ça à d'autres systèmes, par exemple de l'agriculture connectée ou de systèmes de l'IoT qui ressemblent à un système d'IoT immobile à l'extérieur, basé sur un ordinateur monocarte comme un Raspberry ou un Arduino, qui fonctionne sous un budget énergétique restreint, qui produit sa propre énergie de façon autonome et qui transmet des données via un réseau, que ce soit à un serveur ou bien à d'autres systèmes. Alors, on peut imaginer qu'on pourrait coder à la main avec une heuristique ce genre de problème ou utiliser des systèmes d'optimisation sans avoir accès à du machine learning. Nous, on a essayé d'avoir cette approche-là avec du machine learning et en l'occurrence de l'apprentissage par renforcement. Alors, je mixe un peu l'anglais et le français, mais donc apprentissage par renforcement ou reinforcement learning, c'est un pan de l'apprentissage automatique ou machine learning. En quoi il se démarque des deux grands autres pans de l'apprentissage automatique, c'est que l'apprentissage par renforcement, on a un agent et un environnement qui interagissent l'un entre l'autre. L'agent, c'est ce qu'il doit choisir, c'est l'entité qui doit choisir des actions qui vont influencer un environnement qui est dynamique et qui va renvoyer à l'agent un état et des récompenses. L'agent doit faire en sorte de maximiser ses récompenses en général sur le long terme. Voilà. Dans notre cas, donc pour faire écho à ce que j'ai présenté précédemment sur les types de services de nos systèmes IoT, notre agent, c'est en fait un allocateur de tâches qui doit choisir dans une liste de tâches à disposition un sous-ensemble de ces tâches, donc les faire réaliser par notre Raspberry Pi ou notre ordinateur, qui est une entité de l'environnement. Donc l'environnement qui est constitué qui pourrait être constitué par tout le système, donc Raspberry Pi, batterie, panneaux solaires, donc qui se met à jour dynamiquement, qui est aussi influencé par la météo. Et ensuite, cet environnement, dans notre modèle d'apprentissage par renforcement, il montre à l'allocateur, OK, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, en ce moment, on est capable de savoir s'il fait beau ou pas, on est capable de parfois connaître le pourcentage de la batterie ou une estimation. L'utilisateur, celui qui code la méthode, va déterminer des récompenses, le reward en anglais, que j'ai introduit ici par la suite. Aussi, oui, je rappelle, c'est très important de modéliser, de bien choisir l'algorithme derrière l'agent donc la politique, la stratégie que l'agent va aborder de façon à associer les États à la meilleure action, mais c'est aussi clé d'avoir un environnement qui est capable de recréer du mieux que possible la réalité, parce que c'est cet environnement-là, enfin, duquel va découler toutes les données qui vont être créées. Lorsque l'agent apprend, parce qu'on a une phase d'exploration, on a une phase d'exploitation, et donc l'agent crée les données avec l'environnement parce qu'il explore. Voilà. Donc je rebondis sur les récompenses de notre environnement. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on estime le niveau de la batterie, et lorsque la batterie est assez chargée et qu'elle n'est pas dans un seuil critique, alors on va renvoyer une récompense positive à l'agent. Les tâches vont bien fonctionner. Lorsque ensuite la batterie passe dans un intervalle critique, par exemple de 0 à 20%, on va commencer à renvoyer des récompenses négatives et lui dire attention, calme-toi, on aimerait que tu sois un peu plus conservateur, disons. Et si le système ne peut même pas s'allumer, alors on envoie une pénalité maximale. Donc ça, ce sont des règles assez simples, heuristiques, qui sont intégrées dans l'environnement. Pour ce qui est d'estimer du coup cette charge de la batterie, on regarde, on fait une analyse sur la production solaire, et on essaye d'estimer du mieux qu'on peut l'apport des panneaux solaires vers la batterie. Alors ça serait une analyse à elle seule. Je vous introduis ça. Pour l'instant, nous, on utilise une estimation type heuristique, et on prévoit d'intégrer un modèle un peu plus poussé par la suite. Ici, j'ai un graphique qui montre la production solaire en bleu en fonction du temps, et on voit qu'il y a une journée, la première journée a été beaucoup plus ensoleillée que les deux suivantes. Donc on a parlé des récompenses, on a parlé de l'estimation de la production solaire. Ici, je montre en fait ce qui est montré aux yeux de l'agent. L'information qui est à disposition de l'agence, c'est du coup l'historique des succès et des échecs, qu'on est capable de regarder avec les logs du système, du Raspberry Pi dans notre cas, et donc la météo, l'ensoleillement, qui ensuite, passé dans soit l'heuristique, soit un modèle plus poussé, nous permet d'avoir une estimation de la charge de la batterie. Là, pour l'instant, j'ai décrit en fait la case qui était en bas, donc l'environnement. Maintenant, on passe à l'agent, donc en fait le cervau, ce qui va faire le mapping entre les états de l'environnement et les actions qui vont être réalisées. Alors, il y a plusieurs types de méthodes en apprentissage par renforcement. Nous, on utilise PPO, Proximal Policy Optimization, et donc c'est une méthode qui va faire en sorte que l'agent explore un certain nombre de fois, disons 1000 fois ou 100 fois, dans l'environnement librement, et ensuite va mettre à jour toute sa politique. Ce qui démarque cette méthode des autres méthodes d'apprentissage par renforcement, c'est la partie rouge. La partie rouge, elle permet de fixer, de faire en sorte que les mises à jour à chaque batch d'informations qui sont reçues par l'agent PPO ne s'écartent pas trop de la politique précédente, de la version précédente de l'apprentissage. Ça permet donc de régulariser l'apprentissage. Après, voilà, je ne rentre pas trop dans les détails pour ça. Mais en fait, c'est ce qu'on veut faire, parce que nous, on évolue dans un environnement qui est dynamique, c'est-à-dire on a une météo changeante, on a les panneaux solaires qui vont plus ou moins produire d'énergie, et on ne veut pas trop, par exemple, si on a 3 jours où il fait très très moche, on ne veut pas surréagir en fait à ces jours-là, comme on ne veut pas trop surréagir à des jours où il ferait exceptionnellement beau par rapport à la moyenne. On ne veut pas détruire notre stratégie qui doit garder un certain bruit. On a d'abord réalisé des analyses par analyse de sensibilité. On a optimisé les hyperparamètres, et donc en vertical, c'est ce qu'on veut maximiser, c'est notre récompense cumulée. On a le paramètre gamma qui est assez classique en apprentissage par renforcement. Plus proche de zéro, c'est une stratégie qui serait où l'agent essaie de maximiser à court terme. Et plus proche de 1, c'est une stratégie où l'agent essaie de maximiser sa récompense sur le long terme. On voit qu'ici, Un juste milieu serait de 0,99 à 0,999. Et on montre aussi que le paramètre de l'historique, plus on a un historique long, alors on a beaucoup de bruit sur la partie tout à gauche du graphique en bas, mais plus on ajoute d'informations à l'agent, plus naturellement on apprend mieux, on a de meilleurs résultats. Je vous montre aussi une comparaison. Alors, de deux runs de modèles, un bon modèle à gauche, un mauvais modèle à droite, et leur comparaison avec le meilleur heuristique que j'ai pu développer. Voilà, je me suis un peu creusé la tête pour cette heuristique-là, et j'ai eu un peu peur que du coup mon modèle ne le dépasse pas, mais finalement, les meilleurs modèles dépassent l'heuristique. Il n'y en a pas beaucoup que j'ai réussi à entraîner et qui dépassent cette heuristique-là, mais avec certains paramètres, c'est possible. Donc, pour moi, c'est probant et c'est encourageant. J'explique juste rapidement les graphiques ici. On a les dates en X, on a les sommes des récompenses en Y, et en vert, on a la charge de la batterie, donc qui augmente et qui diminue en fonction des cycles jour-nuit. Donc on simule le temps également. Et on a en bleu la récompense cumulée. Ce qu'on veut faire par la suite, c'est donc d'améliorer les performances. On a aussi un gros challenge en apprentissage par renforcement, c'est donc les paramètres initiaux. Et donc c'est de comprendre, mieux comprendre pourquoi un modèle converge bien. Et donc, passe par-dessus cette barre de surpassement de l'heuristique, par exemple. Aussi réaliser une analyse d'explicabilité, comprendre la stratégie du modèle et éventuellement en apprendre plus sur comment faire pour optimiser notre problème. Et éventuellement, si le modèle commence à faire des choses auxquelles on ne s'attend pas, pour mieux performer. Donc, intégrer le modèle de prédiction solaire, comme je l'ai dit au milieu, et déployer en conditions réelles, qui serait la cerise sur le gâteau pour montrer que notre modèle fonctionne et permet de faire en sorte que notre système, dans notre cas d'apiculture connectée, puisse être réalisé. Merci.
Merci.